Corde 2022, bonjour, c'est Michel Bonnet comme d'habitude. We don't need no education. Aujourd'hui, nous allons... nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Et décembre, ben, pour tout le monde, c'est des cadeaux, c'est Noël, etc. Alors, bien sûr, il y a la pub de Coca-Cola qui a inventé le Père Noël pour vendre ses bouteilles en France après la guerre de 14, après la guerre de... la Deuxième Guerre mondiale. Et, mais il y a encore d'autres choses au sujet de Noël, et il y a en particulier la crèche de Noël. Chacun d'entre nous, ou presque, c'est ce que c'est que la crèche de Noël, parce que on la voit un peu partout. Il y a même ici dans les environs de Cordes le circuit des crèches de Noël dans les villages. Je pense que cette année ça marche aussi, bon, peu importe. Et je me suis dit que ça vaudrait la peine de parler un peu de cette crèche de Noël, mais toujours dans le cadre de Cordes 2022, du Moyen-Âge, parce que nos émissions, c'est toujours le Moyen-Âge. Et pourquoi il y a un lien? Est-ce qu'on peut trouver un lien entre Noël et, disons, la crèche de Noël plus exactement, et la fondation de Cordes? Eh bien, vous allez le voir de suite, c'est que Cordes, Raymond VII a signé la charte de fondation de Cordes en novembre 1222. Et Saint François d'Assise a lancé pour la première fois la crèche de Noël en 1223. Donc c'est exactement la même époque. Bon, on est à un an près, et bien sûr, c'est la même époque. Et je me suis dit, tiens, mais c'est extrêmement intéressant de découvrir, en regardant la crèche de Noël, de découvrir un peu l'ambiance culturelle, pas forcément religieuse. Enfin, à l'époque, la culture et la religieuse, ça fait pas beaucoup de différence, hein. Mais de réfléchir à la place de la crèche de Noël, plutôt que Noël lui-même, hein, la crèche de Noël, dans la culture de l'époque, dans les habitudes de l'époque, et de voir comment cela a pu influencer à travers ces données culturelles, a pu se trouver en relation avec la fondation de Cordes. Et donc je vous propose de réfléchir à cela. Et vous savez, donc c'est tout à fait officiel, si on peut dire, dans la littérature, dans l'histoire, etc., que c'est qu'on remonte à Saint François d'Assise, qui était donc en Italie, à Assise en Italie, à cette époque-là, en 1223 exactement. Et ça, on le sait, c'est pour le soir de Noël 1223 qu'il a fait cette crèche. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, il se trouve que d'abord, il faut se rappeler une chose, c'est que ce n'est pas à Assise exactement, c'est dans un tout petit village, en dessous de, enfin à quelques kilomètres d'Assise, et là, il n'était pas du tout le curé du coin, il y avait un prêtre qui s'occupait de la paroisse, et lui, il était là avec quelques-uns de ses copains, enfin copains, quelques-uns de ses disciples, si on peut dire, mais j'emploie le mot copain parce que François d'Assise, moi j'aime pas trop le voir en statue dans nos églises, vous voyez, transformé en moine, avec une bure, etc. C'était pas un membre du clergé du tout, c'était un troubadour. Il faut pas l'oublier. Et il était quand il passait dans une ville, quelquefois il se faisait lancer des pierres parce que il était à dépenailler, en mendiant, et on voulait pas le recevoir. Et quand il allait dans une réunion, eh bien, il sentait le bouc, comme on dit, quoi, parce que il se lavait une fois tous les 15 jours quand il trouvait une flaque d'eau sur le bord du chemin, ou presque. Hein. C'était un genre de troubadour particulier. Il y en avait beaucoup comme ça à l'époque. Hein. Vous vous souvenez, on en a parlé une fois, le fondateur du grand couvent de Fontevraud, qui était un des plus grands couvents au XIIe siècle en France, c'était Robert d'Arbrissel, et il avait fait exactement comme François d'Assise, ou François a fait exactement comme d'Arbrissel, puisqu'il est venu un peu après. C'est-à-dire, on avait des gars qui étaient... qui se prenaient au jeu de dire « je veux être sérieux avec ce à quoi je crois ». Et des gars qui croyaient à manger le moins possible, être végétarien, être écolo, comme on dirait aujourd'hui, vous voyez, des gars qui ne jurent que par le bio, si on peut dire. Donc, c'est des gars qui veulent adapter leur vie à absolument ce à quoi ils croient. Et croire pas au sens de croire en Dieu, de croire à des valeurs, vous voyez. Et donc on avait des gars comme ça, et ces hommes, parce qu'on le trouve très peu chez les femmes, vu qu'il leur était difficile de sortir de chez elles, hein, et de bouger, d'être indépendante, c'était très dangereux, et c'était en plus quasiment impossible vu les lois, enfin, etc., etc. Mais les hommes, il y en a beaucoup qui partaient comme ça dans la nature et ils se retrouvaient à 4 ou 5 quelquefois, comme on en a trouvé, nous on en trouve encore aussi aujourd'hui, des gars qui partent ensemble pour aller vivre dans un coin perdu de l'Ardèche, vous voyez, ou au fond des bois. Enfin, toutes ces expériences de gars qui veulent bâtir un monde autrement à partir d'une conviction. Oui. Et François, donc ce gars-là est comme ça. Au début, vous connaissez sa vie, je vais pas vous la raconter, mais au début à Assise, il est plein aux as, il est beau gosse, il aime bien se bagarrer, il court les filles. Enfin, oui, c'est un gars dans le vent, quoi. Hein. C'est bon. Et puis un beau jour, d'abord parce qu'il prend des coups, il aime bien se battre avec les villes des environs. Il y avait des bagarres entre les villages et il prend des coups, ça lui fait mal, ça le fait réfléchir. Quand on risque sa peau, quelquefois on se met à réfléchir, forcément. Et il dit, mais la vie que je mène, c'est idiot. Mais c'est complètement débile. Il faut absolument que je laisse tomber tout ça. Et il était le fils héritier d'un des plus gros marchands d'Assise. Alors, ça se passe pas comme ça. Le paternel, il dit, de quoi? Tu vas prendre la succession, tu vas bosser, faut être sérieux, et puis mon honneur, etc. Bref, ça craint. Qu'est-ce qu'il fait un jour où il s'attrapait un peu vertement sur la place d'Assise devant l'église avec son père et à la sortie d'une messe quelconque? Il se met à poil sur la place, carrément, il prend tous ses habits, il les jette aux pieds de son père, il va à l'évêque, il dit « Couvrez-moi, je vous appartiens, c'est fini maintenant, je coupe les ponts avec la terre ». Vous voyez un peu le gars, il y croyait un peu, je dirais, assez foufou, quoi, hein, assez farfelu. Donc, c'est pas du tout le bon moine, vous savez, qui chante des psaumes du matin au soir tranquillement. Hein, c'est pas du tout ça. Bon, on s'arrête une seconde.
On a toujours besoin d'un peu de rock dans sa radio. Non ? CFM ?
CFM.
L'esprit rock.
L'esprit rock.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Take it anymore. Whatever happens, I leave it. Tales of yesterday.
Corde 2022, Michel Bonnet. Donc on parle de la crèche de Noël et de François d'Assise. Donc ce gars-là, un peu fou, qui a, à un moment donné, quand il arrive à l'adolescence, sur le coup de ses 20 ans, quoi, il quitte tout et il se met à vivre la pauvreté au max. Et avec des amis autour de lui, il crée une petite équipe. Et ils ont la cote parce que ça fait plaisir aux gens de voir des gars qui y croient. Ils parlent beaucoup, ils chantent surtout. Ils chantent des tas de choses sur la nature. Hein. Les loups, les pigeons, les alouettes, les fleurs, le soleil, la lune, etc. On a encore d'ailleurs de lui un des plus beaux chants de la littérature italienne, qui est le Cantique du Soleil, même en dehors de la littérature italienne. Qui a été traduit dans toutes les langues du monde, si on peut dire, oui. Donc un troubadour qui chante bien, qui sait chanter, qui connaît la musique et qui fait plaisir aux gens, qui les aide à faire la fête et tout le reste. Et il se trouve que un beau jour, donc en 1223, il trouve que les Noël, la fête de Noël, elle est triste. Et il va à la messe, et il n'est pas du tout curé, il n'est pas du tout prêtre, il a refusé absolument d'être prêtre, même si on le lui avait proposé. Et il trouve que lui, dans sa psychologie de gars qu'il faut, il dit, il faut toujours faire la fête, le monde est beau, c'est merveilleux, on va bâtir le monde autrement, il y croit, donc ça ira bien, comme nous aujourd'hui, vive le bio, avec ça on fera face à tous les problèmes du monde, et on supprimera la bombe atomique et tout le reste, et bon, ça se passe pas tout à fait aussi vite, mais lui, il veut donner du punch aux gens. Oui, à partir la joie de vivre, voilà. Mais la joie de vivre, pas à partir de la consommation effrénée de tout ce qu'on propose un peu partout dans l'église de cette époque-là, et puis chez les marchands d'Assise et d'ailleurs, pas du tout. Au contraire, moins on s'embête avec de la richesse, plus on est léger, plus on peut être tranquille, on peut danser, etc. C'est sûr que si on se met un manteau brodé de 10 kilos sur le dos pour faire des galipettes, ça va pas très bien, quoi. Alors, donc, voilà. Et il se dit, Noël, c'est une fête superbe pour ça. Il faut absolument fêter Noël. Et qu'est-ce qu'il fait ? Avec ses copains, il leur dit, dites, on va se pointer en dehors de l'église, parce qu'à l'église, il n'y a pas moyen de trop rigoler, surtout à cette époque-là. On va aller dans une grotte du village, là. Il y avait des grottes un peu partout. Et il y en a un qui se charge de ramasser du foin, de la paille ou du foin, un autre qui ramène un âne, parce qu'il y en avait partout, un autre dit ramène un bœuf, et puis puis on va trouver une nana, une copine qui joue la Sainte Vierge, on va trouver un gars sympa qui joue les Saint-Joseph, et on dit allez, et on fait la fête. Et bon, il invite le curé en lui disant « Bon, mais tu viens, tu dis la messe là-haut, quoi, hein, ça sera super sympa, plutôt que de t'embêter dans ton église avec les gens, etc. » Et alors, il invite tout le monde. Et les gens viennent et là, ils demandent à chacun pour venir avec une bougie, c'est la seule richesse que les gens ont. Et, mais la bougie, c'est la lumière, c'est la chaleur. Et venez, et tout le village, enfin le village, c'est un tout petit village, et, se rassemble, et lui aussi sait qu'il chante. Il chante l'histoire de la nativité, qui est l'évangile de la messe du jour. Mais oui, il va pas le chanter avec, comme aujourd'hui, Dominus Vobiscum, etc. Vous voyez, c'est à la troubadour, quoi. Et ça, il emballe le monde, littéralement. Il emballe le monde avec ça, avec le chant. Et puis, en même temps, il y met pas seulement de la musique, il aimait tout son cœur, etc. Il y en a même qui disent qu'il pleurait de joie tellement son émotion était intense. Voilà. Alors, voilà comment s'est passé ce premier Noël. Ça a marqué tout le monde et ça a donné du punch aux gens, etc. Si bien qu'après, ils ont voulu continuer. Alors, ce qu'on ne sait pas, et c'est là où ça m'intéresse de regarder ça, c'est que ce qu'il a fait, c'était interdit. C'était interdit par l'Église. Depuis quelques décennies, depuis la fin du XIe siècle, les gens, pour rigoler dans les églises un peu, parce que les messes n'étaient pas très marrantes, pendant que le curé lisait ses prières, eux, ils chantaient, ils dansaient, ils se rassemblaient. De toute façon, le seul lieu de rassemblement qu'il y avait dans les petits villages, c'était la chapelle du cimetière ou la petite église du village. Et on avait pris cette habitude, donc, de se rassembler et finalement même de pendant que le curé quelquefois disait un texte d'évangile, vous savez, la multiplication des pains, vous connaissez toutes ces histoires, les gens ils le jouaient entre eux, ils se distribuaient des trucs, enfin, et donc ça faisait une pagaille au monstre, et l'ambiance du point de vue du curé ou du point de vue de l'église, c'était pas la prière devant Dieu tout-puissant qui veut le silence de ses serviteurs, hein, c'était pas du tout ça, quoi. Et donc on avait interdit de faire des faits, de jouer à l'intérieur des églises, et notamment pendant les liturgies des fêtes, pendant les messes ou en dehors des messes, les vêpres, les prières du soir, des choses comme ça. Donc c'était interdit. Et lui, il le savait très bien que c'était interdit. Mais il a préparé ça de longue date, il s'est débrouillé avec les relations qu'il avait, etc. Il a eu une permission exceptionnelle du pape, faut le faire, de jouer la crèche de Noël ce soir-là. Et ça, c'est un acte politique. C'est là où on voit que quelquefois, pour les troubadours, ils sont aussi des révolutionnaires. Et moi, je dis quelquefois, c'est une façon de parler, je pense qu'ils le sont toujours. Hein. Quand on décide comme ça, à partir d'une force intérieure qu'on croit, on croit vraiment à ça, il a supprimé au moins dans ce petit village, et cette année-là, il a supprimé cette loi que lui estimait contraire à la joie de Noël et à la joie de vivre. Et ça signifie beaucoup de choses, parce que il y a des chances que s'il a eu la permission, c'est parce qu'il l'a pas fait à Assise ou à Pérouse ou dans une grande ville ou à plus forte raison à Rome. Il a dit, ouais, c'est un petit village, tout le monde s'en fiche, c'est comme nous ici. Si on fait la panique à Cordes ou à plus forte raison à Albi, il va y avoir du bruit. Hein. Mais vous voyez le bruit qu'ont fait les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, tandis que sur un petit rond-point ici de la région, oh ben ça se passait pas trop mal. Quoi. Voilà. Donc, le mépris des grands pour les petits, c'est le mépris des grandes villes pour les villages, et c'est le mépris des gens qui savent tout, qui ont l'argent, etc., pour les disons le peuple en général. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, avec nos chers dirigeants politiques, le mépris qu'ils affichent pour une bonne partie de la population dont nous sommes. Donc, en faisant jouer cette crèche, et en ayant cette permission de la jouer, et en la jouant bien, vous voyez, avec, je dirais, un vrai Saint-Joseph, un vrai homme, une vraie femme. Il a comme cela donné le pouvoir, en quelque sorte, donné la priorité, c'est-à-dire le pouvoir, à ce que pensent, à ce que désirent, à ce que veulent les gens les plus ordinaires du coin où il est.
Pas la peine de secouer votre radio pour bouger.
C'est déjà tout mélangé.
C'est FM.
L'esprit rock.
Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons donc à réfléchir sur cette crèche de Noël. Parce que la façon dont François d'Assise a lancé ça, d'abord c'est intéressant de voir qu'il l'a fait dans un tout petit village inconnu avec quelques copains qui étaient, qu'on appellera des franciscains plus tard, eh bien, peu importe, mais il a joué le jeu de l'endroit où il se trouvait, c'est-à-dire avec sa mentalité, sa psychologie, d'aller vers les petits, les pauvres, de pas jouer à l'esbrouf, vous voyez. Et pour lui, c'est ça le mystère de Noël. Et c'est là où cette crèche de Noël, tout d'un coup, elle parle énormément aux gens. Parce que il leur dit, il l'a chanté dans l'évangile et ensuite il a fait un long sermon, les gens s'en souvenaient longtemps après, en leur disant, voyez la bonne nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple, un bambin est né. Une maman est de, une jeune fille est devenue maman. C'est fabuleux. Et les gens, bon, eh bien ici, toi, tu es maman, tu as combien de gosses, toi, tu es papa de combien de gosses, etc. On découvre, il fait découvrir aux gens qui n'ont rien, qui ne sont pas riches, etc., que leur première richesse, c'est d'abord leur enfant, c'est cette leur première richesse, leur première force, c'est de mettre au monde justement un bébé. Et de le mettre au monde, c'est-à-dire de l'éduquer, de le faire grandir, etc. Et il redonne du cœur au ventre, je dirais, à tous ces petits paysans, tous ces pauvres gens, ces mendiants, etc., qui des alentours d'Assise, à partir. Mais il le fait pas comme cela dans les nuages. Il le fait à partir d'une histoire que les gens croient vrai, et ils croient dur, parce qu'on leur a dit, Jésus est né à Bethléem, il y a 1000 ans, 1200 ans, peu importe. Donc, cette foi, elle fait partie de leur ensemble, la foi dans la naissance de Jésus à Noël, à Bethléem, ça fait partie d'eux-mêmes, en quelque sorte. Et tout d'un coup, ils se sentent liés à cela. Ils se sentent à l'aise avec les bergers, ils se sentent à l'aise avec le bœuf, avec l'âne, etc. Ils sont en quelque sorte chez eux. Il y a du foin, on est assis sur la paille, etc. Et ce qui est splendide chez François, dans l'explication de cette et la présentation de cette crèche de Noël, c'est que justement, ça devient pour les gens quelque chose qui vivent au jour le jour. Enfin, au jour le jour, de temps en temps, évidemment. Vous voyez? Mais il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien d'extraordinaire, en quelque sorte, d'après eux, dans leur vie, que d'avoir un bébé. Quand on est marié, et c'est même le rêve de beaucoup de gens, vous voyez? Et lui, il dit, mais c'est ça, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu annoncer sur Terre, l'Évangile, comme on dit, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que ce bébé-là, eh bien, c'est lui. Il vous met dans un monde nouveau, voilà. Et évidemment, il leur dit ça, c'est à la condition que vous y croyez, que vous croyez à l'énergie de ce bambin qui n'a rien, qui dépend de vous. Donc, tu vois, il y a par derrière, il y a toute une mentalité par rapport au train de vie, par rapport aux relations familiales, par rapport à la relation entre le papa, la maman, le service de l'enfant, et à partir de là, il leur explique, et c'est ça, c'est une révolution, j'emploie ce mot peut-être un peu trop souvent, mais il explique que justement, la responsabilité d'un adulte vis-à-vis d'un bébé, le pouvoir, l'autorité des parents vis-à-vis de l'enfant, c'est de se mettre à au service de ce bambin. Parce qu'ils sont là, c'est pas eux qui choisissent les heures de la tétée, c'est pas eux qui choisissent comment habiller, si, ils choisissent comment envelopper le bambin, etc. Mais c'est les besoins du gamin ou de la gamine qui font la loi. Et eux, ils sont au service de ces besoins-là. Et sans ces besoins, sans donner à manger, à boire, des vêtements, de la chaleur, etc., au bébé, tout le monde sait que le bébé pourra pas survivre. Et pourtant, cette force des parents, c'est la force d'après François d'Assise, c'est la conception qu'il a, c'est la force de toute autorité. Une autorité, un seigneur, Dieu sait s'il savait de quoi il s'agissait, un seigneur, un riche, un puissant, eh bien, quand il commande, c'est d'abord pour se mettre au service de quelqu'un, au service du plus petit, du plus pauvre, de son entourage. Alors, vous voyez comment cette crèche de Noël en chantant avec de la musique cool, quoi, et en se faisant plaisir, en faisant la fête, elle vient installer dans le cœur des gens une dynamique qui est bouleversante, à la fois parce qu'elle change, elle améliore les relations de ces gens avec entre les parents et les enfants, mais de toute la communauté, les uns les autres, les grands, les puissants se mettent au service des plus petits. Bon, on en rêve tous, mais ça se fait jamais parce que c'est trop difficile, vous voyez. Et pourtant, ils poussent à ça. Et ça c'est extrêmement éteint. Et ça a été révolutionnaire. Et ça a continué. Parce que les gens trouvaient ça trop bien. Et donc, on a continué en 94, en 1224, 1225, etc., mais à l'église. Et au cours des siècles qui ont suivi, la crèche s'est faite à Noël, une fois par an, à l'église. Et là où il y a une révolution qui est extrêmement intéressante, et donc, on est loin de corde, mais ça fait rien, on va vous voyez, c'est le grand virage en France de 1789. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Noël ? Énormément, énormément. Parce que les révolutionnaires, le gouvernement révolutionnaire à Paris, a interdit de jouer les crèches dans les églises à Noël. Oui, il faut le faire. Ça, et bon, pas mal d'autres choses. Ils n'ont pas fait que ça, quoi. Mais tout d'un coup, les populations, les braves gens qui savaient pas trop qu'est-ce qui se passait à Paris, ils savaient qu'il y avait la révolution, mais guère plus, hein. Et tout d'un coup, ils se retrouvent interdiction. À Noël, non, pas question. Il n'est pas question d'aller à l'église pour faire la fête, pour chanter, pour des, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le Midi? Parce qu'on est en Occitanie, toujours, même si la région, à l'époque, était différente. C'est que les Provençaux, on dit, c'est pas possible. Noël sans la crèche, Noël, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Puisqu'ils pouvaient pas le faire à l'église, de se retrouver en famille, chez eux, à la maison. Et ils ont dit, la soirée de Noël, eh ben, on va faire une crèche. Et qu'est-ce que ça veut dire faire une crèche quand on est en famille? Eh bien, ils ont passé une heure ou deux à fabriquer les petites statues de la crèche. Et les fabriquer avec du pain de mie. Avec du pain, avec de la mie de pain, vous voyez, c'est très très marrant parce qu'en plus, bon, ben, on met un peu de sucre par-dessus et puis hop, on déguste le Saint-Joseph ou le roi mage. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, en discutant, en se rappelant, les vieux, en racontant qu'est-ce que c'était que Noël, en pensant à la crèche, à tout ça, enfin, entre eux, en famille, ils ont passé la soirée à se rappeler ce message essentiel de la crèche de Noël, hein, un bébé parmi nous, c'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie révolution. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont élargi à tout le village. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, ben nous, nos petits saints, parce que 100 ans en provençal, ça veut dire petits saints, hein, ouais, et nos petits saints, les petites statuettes qu'on a là, quoi, c'est le garde-champêtre, parce qu'il fait partie de tout le monde, c'est la poissonnière, et c'est toutes ces 100 ans de Provence, et qui aujourd'hui sont vendus dans tout le commerce, partout, et représentent la crèche autrement, mais représentent la crèche en tant que vie d'un petit village, d'un quartier, vie des citoyens, la vie ordinaire des gens. On représente pas quelque chose à la crèche de Noël, quelque chose de particulier. Non, chacun vient avec ce qu'il a. Moi avec un fagot de bois, un autre avec un poisson, un autre avec un mouton, etc. C'est cette réponse extrêmement intéressante du milieu populaire à travers la crèche de Noël, vous voyez, qui en quelque sorte prend le pouvoir et dit nous valons quelque chose. C'est un peu, moi je le dis aujourd'hui très clairement, c'est exactement de mon point de vue ce qui s'est fait sur les ronds-points avec les gilets jaunes en dehors de Noël, hein, parce que Noël maintenant, bon, c'est autre chose. On s'arrête une seconde.
CFM. C'est ça
qui est bon. Qui est bon. CFM.
L'esprit rock.
She said, baby, get down on your knees. I said, baby, if you will.
racist. She said, why do you keep seeing things you know that don't exist? I said, baby, I love you. And what can I do? I'll probably love you till the day I die. She said, well, pretty honey, if that's true, then give me both of my pretty eyes. I said, oh, baby, you can have them, you can have my eyes. Thinking that she does, but my won't see the lies. But my baby, I can tell you a lie. Oh, my baby, I can tell you.
Corde 2022, Michel Bonnet. Donc, vous voyez, nous avons fait un grand saut sur la crèche de Noël entre le Moyen-Âge et 1789, la Révolution, les Santons, voilà. Et je disais, mais qu'est-ce que, comment relier ça à Corde, à la fondation de Corde? Bon, faudra, c'est le grand écart peut-être, mais qu'est-ce qui s'est passé à Corde? Faudra prendre ça avec du temps, y réfléchir. Mais vous savez que Raymond VII a été extrêmement marqué par le temps qu'il a passé à Beaucaire, au moment du siège de Beaucaire, à la bataille de Beaucaire, où il a découvert la population, les hommes et les femmes ordinaires. Et là, il a été conquis par cette population. Il a plus joué les grands, il a tenu à, bien sûr, à être le seigneur, le comte. Il s'est battu pour ça. Mais, pas en sens, au sens de distance d'avec la population. Il sait que s'il a gagné Beaucaire, c'est grâce à l'énergie des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux qui étaient à Beaucaire. Et il a retrouvé ça petit à petit, par exemple au siège de Toulouse, où c'est véritablement toute la population qui s'est mise contre les croisés et qui a réussi à, d'ailleurs à provoquer la mort de Simon de Montfort et qui a bouleversé la croisade. Or, on est en 1222 et quand il devient comte de Toulouse, élu par la population, ne l'oublions pas, la première chose qu'il fait, c'est de mettre en place Corde. il l'a préparé un peu avant, ça se fait pas dans un coup de cuillère à peau, vous voyez, il l'a préparé avant, mais il l'a mûri, et en disant, qu'est-ce qu'il fait comme révolution à ce moment-là ? Il y a, à cette époque-là, une pression sur l'ensemble du Midi, dans les populations, parce que le climat a changé, on a davantage de... La nature est en forme, il y a un réchauffement climatique, on a davantage de production céréalière, vigne, etc. Les gens vont mieux, et donc il y a davantage de gens. Et on fait face à une augmentation de la population. Augmentation de la population, ça veut dire immédiatement besoin de logement. Et les gens se retrouvent à faire des hameaux un peu plus importants. Et donc, de suite, les seigneurs en profitent et disent « Je vais faire un village autour de mon château et je vais avoir des gars pour les faire bosser, enfin, etc. etc. » Et les curés, ou disons le clergé, notamment les monastères, disent la même chose. Et autour de l'église, on va rassembler des gens, on va faire des villages, et comme ça, on augmentera grosso modo notre pouvoir. Bon, je vais un peu vite, je suis d'accord, mais enfin, c'est pour vous dire, les grandes... Ce qu'aujourd'hui, quand on voit comment les villages se sont formés au XIIe, XIIIe siècle, c'est ces deux grandes façons-là. Or, Raymond VII arrive à Cordes en disant « pas d'église, donc pas de Cordes, pas de gens rassemblés autour de l'église de Cordes, il n'y aura pas d'église à Cordes, il n'y aura pas un curé, il n'y aura pas un évêque, en dehors peut-être, hein, mais pas dans les remparts de Cordes, et pas de seigneur non plus ». Pas de château fort au sens où un seigneur s'installe et c'est lui qui va commander les choses. Non, à la place, le pouvoir aux gens. Les gens qui viennent là, vous allez vous mettre ensemble, vous allez élire des consuls, des prud'hommes, peu importe comment on les appelle. C'est-à-dire que, je dirais dans un sens, en termes politiques, en termes de population, d'organisation du territoire, par le comte de Toulouse, lui, c'est pas un troubadour. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a la même attitude. Il met en pratique, si on peut dire, le message de François en disant place à la population, on lui donne le pouvoir, et c'est là, quand les gens vont se rendre compte qu'ils ont en eux une énergie qui est capable de tout, c'est là que ça va pouvoir se développer, etc. Donc on peut dire véritablement que, d'un point de vue politique, mais également, si on va assez loin d'un point de vue culturel et religieux, la fondation de Cordes, c'est vraiment l'installation d'une crèche de Noël, si on peut dire, sur le piton sur le puège de Mordagne. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir à cela. D'ailleurs, puisque j'en ai l'occasion, on est lundi, ce vendredi, le 6, donc ce vendredi prochain, à 20h, au théâtre du Colombier. Si vous voulez, je vous invite, je vais faire une conférence qui sera un peu plus étoffée que ces quelques mots de l'émission sur ce sujet-là, les relations au point de vue culturel entre justement la fondation de Cordes et puis cette fondation de la crèche de Noël qui était dans l'air du temps à cette époque-là. Bon, je vous souhaite, si on se revoit pas d'ici là, un bon Noël et je vous remercie de votre attention. C'était Cordes 2022, Michel Bonnet.
I'm the bed, I'm in strife, but my coldest is wasting my life, and I feel so tired. I told you, hey, mama, help me, I am down, and then I'm alone, but I don't know why. Greatness is striking sometimes. Greatness is bragging sometimes. To face it up.
You know I'm betraying my bet and I lost my soul, man. And I fought the wrong enemies in my brain one time. In my brain two times. My world is butterflies, it's as bad. And I'm scared of rubber cords, it's a shame. Greatness is broken sometimes. Greatness is broken sometimes. Greatness is broken. Greatness is broken. Greatness is broken for a long
FM.
De Cahors à Albi.
De Cahors à Albi.
L'esprit rock.